Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Thibaut Texier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Retour à la normale ou presque ce matin sur les rails de l'Eurostar, a interrompu une bonne partie de la journée d'hier. La compagnie assure que tous ses services seront assurés ce mercredi. Les vœux d'Emmanuel Macron ce soir, le chef de l'État reviendra sur la situation nationale mais aussi internationale à l'heure où son entourage remet en cause les accusations du Kremlin sur une attaque présumée de Kiev sur une résidence de Vladimir Poutine. Et puis le réveillon que certains passeront en famille, entre amis, d'autres au boulot. Reportage à suivre avec ces travailleurs de la Saint-Sylvestre.
Alors, on commence avec ce qui est clairement le flop de la fin d'année, le réveillon gâché pour des milliers de voyageurs à la veille de la Saint-Sylvestre.
Contraints de revoir leurs plans après l'annulation de leur train pour Londres, des Eurostars à l'arrêt une bonne partie de la journée d'hier en raison d'un problème électrique dans le tunnel sous la Manche. 23 trains ont été supprimés, un coup dur pour ces usagers rencontrés par Philippine Boulet, gare du Nord à Paris.
Elias sort de la gare, son sac de voyage encore sur le dos. Son train est supprimé, impossible de trouver une solution alternative.
En vrai, ça fait trop de dépenses. Ah bah même l'Airbnb, on l'a annulé quoi.
À quelques heures du réveillon, il n'a plus l'esprit à la fête.
On avait une petite soirée prévue, on avait réservé les tickets et tout. On devait faire du golf, tour de Londres, quoi, visiter gentiment. Franchement, décevant.
La mine déconfite, ce groupe d'amis venus de l'Hérault voulait visiter Londres.
Bah c'est foutu quoi, nos vacances elles sont à l'eau.
Pour autant, pas question de renoncer au réveillon.
On va rentrer à Montpellier.
On va essayer de faire un nouvel an quand même, se dire que tout n'est pas perdu et qu'on... Mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu moins cher.
Pour Romane et sa mère Véronique, ce voyage comptait énormément.
C'était un peu la lueur d'espoir en fait qu'on avait. L'année a été un peu difficile et c'est vrai qu'on avait besoin de se retrouver, de faire un petit peu autre chose.
C'est vrai que ça désenchante un petit peu le rêve.
La compagnie Eurostar a promis hier la prise en charge des passagers bloqués et un remboursement aux voyageurs dont le train a été annulé.
Et ce matin, la réaction de la compagnie ferroviaire Romain Hoog, Eurostar prévoit d'assurer tous ses services.
Oui, la société annonce la reprise du trafic entre Londres et le continent, mais prévient déjà de possibles perturbations en raison des répercussions de la panne d'hier. Il pourrait encore y avoir des retards et des annulations de dernière minute, avertit la compagnie. Et ça n'a pas raté. Dès 6h ce matin, avec le premier train entre Londres et Paris qui a été annulé, Eurostar invite d'ailleurs les passagers ayant un train aujourd'hui à consulter les mises à jour en direct sur leur site internet pour éviter toute mauvaise surprise. En tout cas, la compagnie assure avoir réalisé des travaux dans la nuit pour permettre cette reprise du trafic. Travaux suite à une défaillance du câble caténaire qui alimente les trains en électricité, ce qui a engendré l'immense pagaille en gare hier à Paris et à Londres. 23 trains annulés et des milliers de voyageurs laissés sur le carreau à la veille du réveillon du 31. Eurostar a promis à tous les passagers concernés des dédommagements.
Des dédommagements, merci Romain Hoog. Mais en attendant, ce réveillon... gâchés, hein, ceux qui avaient prévu d'être à Londres qui pourront pas y être, ceux qui sont à Londres et qui veulent rentrer et qui nous écoutent peut-être via l'appli RMC, dites-le nous ce matin au 32-16 ou alors même un petit message sur le WhatsApp RMC au 06-12-424-424. Il est 7h03 sur RMC, Volodymyr Zelensky persiste, l'Ukraine n'a pas attaqué la résidence d'été de Vladimir Poutine.
Le président ukrainien dénonce de fausses accusations manipulatrices servant la propagande russe, pointant une absence de preuves que ses alliés peuvent vérifier une version du Kremlin. Romain Cluzel également remise en cause par l'entourage d'Emmanuel Macron.
Il n'existe aucune preuve solide pour confirmer les accusations de Moscou, estiment les proches d'Emmanuel Macron. Paris affirme avoir procédé à des vérifications, y compris avec des pays alliés. Et 24 heures après les accusations de la Russie, rien ne prouve que la résidence de Vladimir Poutine ait été visée par des drones, selon l'entourage du chef de l'État, qui pointe aussi des versions contradictoires dans les accusations de Moscou. Pour autant, les Russes insistent. Après cette prétendue attaque, ils vont durcir leur position dans les négociations en cours avec Donald Trump. En parallèle, Vladimir Poutine poursuit ses attaques contre l'Ukraine. Pour l'entourage d'Emmanuel Macron, ces frappes russes sont un acte de défi contre l'agenda de paix du président Trump.
La situation internationale que devrait aborder Emmanuel Macron ce soir 20h pour ses traditionnels vœux de la Saint-Sylvestre. À suivre en direct sur AMC, discours d'une dizaine de minutes durant lequel le chef de l'État devrait revenir sur l'année écoulée, se projeter aussi sur l'année 2026 qui ne sera pas selon son entourage une année d'immobilisme. Une nouvelle année qui débute sans budget voté par le Parlement. Pour autant, il y a des nouveautés, la hausse du prix du gaz, du carburant aussi, hausse du SMIC, plus 17 euros par mois net. Autre nouveauté, elle était annoncée le tour tournevis de Sébastien Lecornu sur les avantages accordés à ses prédécesseurs dans une lettre qui leur est adressée. Le Premier ministre les informe qu'ils n'auront plus de chauffeurs et de véhicules à leur disposition. C'est une mesure d'économie, dit le Premier ministre en parlant d'argent. C'est aujourd'hui le dernier jour pour effectuer un don à une association et par là même bénéficier d'une réduction fiscale de 75%. Décembre est en effet le mois où les Français donnent le plus, avec un quart des dons annuels. Des Français particulièrement généreux cette année. Martin Juret, Victor Girard.
Un exemple frappant, Mayotte, dévastée l'an dernier par le cyclone Chido.
La Fondation de France a récolté 44,4 millions d'euros.
Alexandre Giraud, directeur de l'action philanthropique de la Fondation, ne réalise toujours pas l'ampleur du succès de l'opération Solidarité Mayotte.
Une collecte record, hein, plus de 40 millions d'euros, alors qu'en temps normal, une catastrophe naturelle va plutôt réaliser des collectes de l'ordre de 10, 15, 20 millions d'euros.
Au total, 340 000 dons effectués, des contributions qui ont bénéficié très concrètement à l'archipel.
Nous avons soutenu 238 initiatives, des distributions alimentaires pendant la phase d'urgence, remettre en état des réseaux d'adduction d'eau, d'assainissement.
La moitié des fonds a déjà été mobilisée et la reconstruction continue. L'engagement en ligne a été très significatif. 72% des dons pour Mayotte ont été réalisés sur Internet, qui représente désormais un tiers des dons ponctuels.
Notamment lorsque vous avez des crises, les gens vont vite réagir par le digital.
Philippe Paillard, président de France Générosité.
Vous voulez réagir extrêmement vite, vous n'avez pas envie d'écrire une lettre ou d'envoyer un bulletin. C'est la facilité.
France Générosité appelle à poursuivre les dons d'ici au 31 décembre.
Et après vos dons, c'est place aux célébrations du réveillon. Une Saint-Sylvestre sous haute sécurité, 90 000 policiers et gendarmes mobilisés à l'échelle du territoire, nous dit le ministre de l'Intérieur. 10 000 d'entre eux seront déployés à Paris et ses alentours. L'objectif de Laurent Nunez, c'est de lutter notamment contre les traditionnelles violences urbaines et plus particulièrement contre ce fléau. Des mortiers d'artifice, des contrôles ont d'ailleurs été menés en amont. C'est le cas à la frontière allemande où se ruent les fêtards pour acheter des feux d'artifice de l'autre côté du Rhin. Reportage Inès Zegloul.
Contrôle des véhicules systématique.
Vous prenez des fusées avec vous.
Et des conducteurs pris la main dans le sac.
On a joué, on a perdu. On s'est dit peut-être qu'ils vont être un petit peu cléments avec nous, mais malheureusement non.
Des dizaines de feux d'artifice en tout genre, stockés dans le coffre, achetés au supermarché à quelques kilomètres d'ici en Allemagne. Tous saisis, pesés. Et
vous aurez soit un rappel à la loi,
sanction à la clé.
Soit il y aura une audition qui sera en cours.
Depuis le 29 décembre, nous avons saisi pour la gendarmerie environ 100 kilos d'artifice.
Charles Romanet est commandant de la compagnie de gendarmerie de Mulhouse.
Il y a deux catégories de contrevenants, soit des personnes qui ne sont pas au courant de l'interdiction d'artifice en France, et il y a aussi une catégorie de personnes qui ont un usage détourné de ces artifices.
Car ce que craignent les forces de l'ordre et le préfet du Haut-Rhin, Emmanuel Aubry, c'est l'usage non festif de ces articles pyrotechniques.
Les attaques contre les forces de l'ordre, ces artifices, au moment où ils sont transportés, on ne sait pas l'usage qui peut en être fait.
Objectif aussi, conclut-il, éviter de potentiels accidents domestiques, brûlures et autres traumatismes sonores.
Des contrôles, il y en aura aussi sur la route ce soir, occasion pour la prévention routière d'alerter sur les comportements à risque au volant. C'est le cas de l'alcool, un quart des Français ont prévu de prendre leur véhicule pour réveillonner. Le problème, c'est que nombre d'entre eux ignorent le temps nécessaire pour éliminer un verre d'alcool. On en parle dans le journal de 8h.
Et on en parle dans 5 minutes, même pas, avec Sophie Saintin, déléguée générale de l'association prévention routière. 8 Français sur 10 qui vont boire, un quart qui veulent rentrer en voiture. Est-ce que vous avez déjà pensé à la suite, à l'organisation, à comment vous rentrez? Vous nous le racontez au 32-16 ce matin. Ce soir, il y aura les fêtards et les autres que j'attends aussi hein, au 32-16 ce matin, ceux qui travaillent.
Loin d'être isolés, 66% des hommes, 42% des femmes ont déjà travaillé un soir de la Saint-Sylvestre selon une enquête de la plateforme de recrutement ACPA, Santé, Hôtellerie, Restauration. Martin Lange est allé à la rencontre de ceux qui seront sur le pont ce soir.
À quelques heures du réveillon, Jean-Michel, chef d'un restaurant du centre-ville de Rennes, peaufine son menu.
Menu en 6 temps, donc avec amuse-bouche, entrée, poisson, viande, fromage, dessert.
Travailler le soir du réveillon, c'est une habitude.
Ça fait un peu plus de 25 ans que je fais ce métier, c'est très rare les réveillons que j'ai eu off. Ah, c'est 24 heures intense, ouais. C'est les inconvénients du métier, c'est ça.
Caroline, elle travaille dans une station-service entre Rennes et Paris, elle finit à 22h15.
Alors ça n'empêche pas qu'on rejoint la famille après, mais c'est vrai qu'on est plus limité, quoi. J'habite à un petit quart d'heure, donc on va dire à 22h30... Je rattrape le temps perdu. On n'a vraiment pas le choix. C'est vrai que ça joue sur la vie de famille. Donc, Voilà, c'est pas anodin, quoi.
Les professionnels de santé sont aussi mobilisés ce soir, mais pour conserver une part de fête, certains s'organisent. Le docteur Yann Delaunay, médecin urgentiste.
Chacun amène des petites toasts, des petits desserts. Tout le monde amène sa bonne humeur du réveillon. Comme s'il faisait un peu à la maison, mais on le fait à l'hôpital. Donc là, c'est le réveillon. Ça aurait pu très bien être Noël. Ça fait partie du métier.
Certains salariés touchent une prime à la Saint-Sylvestre, mais elle n'est pas prévue dans la loi, car le 31 décembre n'est pas un jour férié.
Et puis au travail, ou à la maison, ou peu importe où vous êtes, que serait un réveillon sans musique, seul, en famille ou entre amis? Un peu de musique, ça fait toujours du bien. Pierre Bourget est allé vous demander votre playlist idéale pour le passage à la nouvelle année.
Du Bruno Mars, des choses comme ça. Je serais genre, je crois que c'est sympa. C'est le rythme, c'est un peu le cœur, c'est ce petit boum boum. Entre amis, c'est super sympa.
Moi, je suis plus classique, plus années 80 ou Les Démons de Minuit, par exemple. Ça fait lever tout le monde et après, on a fini. C'est plein de souvenirs, ça fait du bien.
Bah, en vrai, moi, je dirais Can't Hold Us de Macklemore. On ne peut pas s'empêcher de mettre les mains en l'air et vraiment de passer dans le mode soirée.
On va danser sur Shakira, la nouvelle chanson du film de Zootopie.
C'est celle-ci. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, j'aime pas trop, mais on a les enfants, on fait avec.
Elle adore.
Mais alors chez moi ce sera plutôt du Gims hein.
Les enfants ont pris le contrôle de la playlist aussi.
Forcément.
Moi aussi c'est Gims, Jules et de la K-pop.
Jules c'est pas mal. Quoi qu'il en soit, la meilleure playlist, elle est sur RMC Gold aujourd'hui. Le grand mix ce soir, spécial année 80-90 de 21h à 6h. RMC Gold disponible via l'application RMC.
Et cela dit, c'est ce que je vais faire, je pense, en fait. Hein. Dans l'absolu, les enfants jouent avec votre playlist. Moi j'écoute Max. Bien sûr, RMC Gold, mais il y a la moitié des chansons qui étaient citées dans le sujet de Pierre Bourget. Dites-nous quelle musique vous allez mettre à minuit précisément. Je parle pas de la musique pour faire la fête en général. Minuit précisément, c'est quoi la chanson qui vous met en 2026? Dites-le nous au 32-16 ce matin, n'hésitez pas. Ou sur le WhatsApp RMC 06-12-424-424. Merci Thibaut, c'était le journal. On va retrouver Rafa. Je crois que c'est Rafa qui nous appelle du Maine-et-Loire. Bonjour.
Bonjour.
Je sais pas, c'est Rafa votre prénom, Raphaël?
Oui. Non, Rafa, c'est mon surnom.
C'est votre surnom, d'accord.
Non, comment c'est Bruno, mon prénom?
Ben, je vais vous appeler Rafa, hein, c'est comme ça que vous êtes présenté.
Oui, voilà.
Il
n'y
a
pas
de problème.
Sympa.
Alors, dites-nous un petit peu le programme pour vous, là. Je vois que, vous avez loué une villa et vous êtes 11.
Ouais, c'est ça, comme tous les ans, on est une dizaine à partir, 4 couples et 3 célibataires. Donc on se retrouve pendant 2-3 jours en fonction de la date du réveillon, bien sûr. Et comme là, c'est un grand week-end, donc on part jusqu'à samedi.
Et c'est un grand week-end, on est mercredi, oui.
Très grand week-end.
C'est un très grand week-end.
On part à 13h30 ce midi, là. Et puis voilà, bon, on a 1h45 de route, donc ça va, c'est pas très très loin pour nous.
Et l'avantage, c'est que vous dormez sur place.
Exactement, ben on ne bouge pas.
On va en parler dans un instant de ça, mais vous avez l'option sécurité et c'est finalement la meilleure option pour pouvoir faire la fête sans trop se poser de questions.
Exactement, on pose les voitures et après, le lendemain du réveillon, on fait des marches le matin et tout ça pour récupérer un peu, bien sûr. Mm-hmm. Et puis dégustation de vin pendant 3 jours, quoi.
Oui, il n'y a aucun problème à partir du moment où vous ne conduisez pas, Rafa. Bon, après, je ne pas le médecin. Il y a d'autres problèmes par ailleurs. Toujours. On le dit une bonne fois pour toutes ce matin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Comme ça, c'est fait.
On est d'accord.
Rafa, mais tout le monde doit s'organiser, en fait. Le maître mot, c'est l'organisation. On se gère, que ce soit sur le point de vue de la santé ou sur le point de vue de la route dont on va parler dans un instant. Rafa, juste d'un mot.
Oui.
Qui cuisine?
Nous, c'est les femmes des copains.
C'est les femmes des copains. Ah non, c'est magique, voilà. Cette phrase. Vous allez écouter.
Exactement.
Eh ben, Rafa, vous allez écouter. Vous allez écouter Julien Dumas, qui est chef cuisinier, qui sera avec nous à 8h40. Alors lui, il a un menu grand luxe ce soir chez lui. Oui. Mais il vient nous donner quelques petites astuces pour ceux qui font encore quelques courses pour ne pas se ruiner. Puis Rafa, dernière question, une petite musique pour minuit?
Nous, c'est beaucoup années 80, parce qu'on est, autour de la cinquantaine, voire soixantaine. Donc, moi, on aime bien Mylène Farmer, la Désenchantée, tout ça. Donc,
ça marche bien, hein?
Voilà, merci.
Je vous donne un conseil, que ce soit à minuit ou à un autre moment de la soirée, vous passez par RMC Gold et je crois que
Mylène Farmer en
fait. Le meilleur des années 80-90, ce sera pour vous. Vous avez prévu, très bien, Rafa. Je vous souhaite bonne route et un très bon week-end qui commence le mercredi pour Rafa. Il est 7h14 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
J'ai pas arrêté de le dire, on va parler d'alcool dans un instant. Pourquoi ? Parce que 80% des Français ont prévu de boire ce soir. C'est pas étonnant, on est le 31 décembre bien entendu. Mais un quart veulent rentrer en voiture. Bonjour Sophie Saintin.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de l'association Prévention Routière. L'alcool au volant, on s'organise mal, toujours. Et on ne connaît pas bien nos limites. Plus que jamais, bien réveillonner doit rimer avec bien rentrer. C'est votre parti pris dans une minute sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h17, vous êtes sur RMC, RMC Story. Cette année, on a un réveillon en milieu de semaine. Ça veut dire plus de déplacements, plus de risques. 79% des Français vont boire ce soir. Mais bien réveillonner doit rimer avec bien rentrer. C'est votre parti pris ce matin, Sophie Saintin, déléguée générale de l'association Prévention Routière. Bonjour.
Bonjour.
On s'est vu l'an dernier. Le même jour,
le 31 décembre. À peu près à la même heure.
Il y a des choses à rappeler qui ne rentrent toujours pas. Donc quand on dit qu'un quart des Français prévoit de prendre la voiture pour rentrer, précisons quand même que beaucoup surestiment leur capacité à gérer. Je mets des guillemets sur le mot gérer. Pour vous, quand on organise la soirée, on doit déjà organiser le retour au moment des courses, de l'organisation, de la préparation du repas. C'est pas après 3 ou 4 verres qu'on prend la décision.
Non, exactement. Et il est encore temps, hein. Il est tôt ce matin. Pour, on a déjà organisé sa soirée du réveillon. Et ce qu'on vient de dire, enfin, ce que notre association répète au mois de décembre aux gens, c'est quand on organise la soirée, on organise aussi le retour. On anticipe et on choisit sa solution pour bien rentrer. Vous l'avez dit, notre credo, c'est bien réveillonner, ça doit rimer avec bien rentrer. Pour que la fête reste
belle. Ouais, on prévoit un SAM, hein, celui qui ne boit pas. Ou alors on prévoit de rester sur place quand on accueille un petit matelas gonflable. Enfin, il y a plein de choses à penser. Je vois que vous avez des éthylotests.
Exactement.
Pas du luxe.
Dans les propositions qu'on suggère, hein, il y a dormir sur place, c'est la solution la plus sûre. Cette année, le réveillon tombe en milieu de semaine, donc on sent que c'est pas la solution qui a été la plus choisie. Mais on incite ce matin. Si vous avez encore rien décidé, prenez cette option. C'est l'une des plus sûres. Ensuite, on choisit un SAM. En effet, vous l'avez dit, SAM, le capitaine de soirée, c'est celui qui ne boit pas et qui va ramener tout le monde à bon port. Pareil, SAM, on le choisit avant le début de la soirée. Comme ça, on sait bien qui ne boit pas.
Il n'y a pas de doute. Ouais.
Il y a plein de d'alternatives, des mocktails, enfin plein de choses pour que la fête reste belle sans alcool forcément. Et en cas de doute, vous l'avez dit, on utilise un éthylotest. J'en ai pris et ils sont vendus dans les grandes surfaces.
Ouais, maintenant on en trouve facilement.
Il y a plus d'excuses. Facilement.
Alors, ce qui vous inquiète particulièrement sur cette soirée du 31, et c'est important de le préciser. Bon, certains vont peut-être aller au resto ou dans des bars, mais beaucoup vont accueillir ou se déplacer chez des amis. Et la réalité, c'est que les verres qu'on sert n'ont rien à voir. Dans un bar, c'est dosé, c'est légal, c'est réglementaire. Et puis, il y a des questions de marge aussi du revendeur. À la maison, on a tendance à surdoser les verres.
On est généreux, oui.
C'est pour ça que vous avez un petit test, un petit peu de matériel. On a une bouteille, un verre.
Exactement.
On n'est pas non plus dans une production hollywoodienne. Je vais juste m'approcher de vous.
Mathieu, je vous ai ramené l'atelier de sensibilisation que nos bénévoles déploient tout au long de l'année quand on parle alcool et conduite. Ça s'appelle l'atelier Dose Bar, Dose Maison. Et c'est, en effet, c'est le but, c'est de faire la comparaison finalement. Comment on sert un verre à la maison? Est-ce que quand on sert vraiment un verre ou est-ce que on en boit déjà un ou deux?
Et comment est-ce qu'on compare du coup? Alors
moi, je vais vous montrer.
C'est censé être de l'alcool?
Ça, voilà, c'est une bouteille avec du colorant alimentaire.
On imagine un alcool fort.
Exactement. Je vais vous demander, Mathieu, de me servir un verre comme à la maison. Vous me serviriez un verre d'un alcool.
On pense qu'il y a un glaçon en plus. Je pense que un alcool fort, je serais là-dessus, moi.
J'ai le droit de vous. Enfin, voilà, whisky.
Oui, voilà. On imagine un spiritueux. Je sais pas, juste un doigt, comme on disait dans le film, là. Voilà.
Ok, donc là, vous pensez que vous avez servi un verre, Mathieu, c'est ça?
J'ai servi un verre.
Alors, maintenant, on va faire la démonstration. Je vais tester. J'ai amené un verre doseur. Vous voyez, vous avez les équivalences.
Ouais, alors si d'alcool. Ma mémoire est bonne, c'est 4-5 centilitres normalement, c'est un verre de.
Voilà, d'alcool. Un verre de whisky spiritueux, comme vous disiez, 40 degrés, c'est 3 centilitres. Bon, on vérifie.
J'ai pas savoir. Je vais à votre autre verre et maintenant j'ai
pas
un petit
peu. Mathieu.
Alors, je fais la démonstration.
C'est l'heure de la petite. On fait les bruits de. C'est pas sorcier.
C'est pas mal.
Voilà. Alors, combien vous pensez?
J'ai vu tout à l'heure votre gradation. Je suis au double en fait.
Exactement.
Je suis au double.
Exactement.
Je suis exactement au double de la dose qu'on aurait eu dans un bar.
Un peu plus.
Donc si je me dis que je vais boire 2 verres, en fait, dans un verre, j'en ai déjà bu 2.
Exactement.
C'est ça votre message.
C'est ça notre message. C'est qu'en fait, quand vous pensez avoir bu un verre, bonne fois, vous en avez finalement bu 2. Et donc la question de la reprise du volant, elle va commencer à être à être problématique. C'est pour ça que, en fait, notre message, c'est pas de dire ne faisons pas la fête. Non, notre message, c'est alcool et conduite sont incompatibles. On peut pas reprendre le volant quand.
Désolé de casser l'ambiance. On va beaucoup sourire ce matin. On va s'amuser aussi. C'est le 31. Mais ce soir, 15 personnes vont perdre la vie. Une quinzaine de personnes vont perdre la vie sur la route. C'est très concret. Et je rappelle aussi les fausses bonnes idées que vous listez. Attendre avant de prendre le volant. On n'a aucune idée de combien de temps il faut pour évacuer.
Alors oui, attendre. Vous allez me dire, ça paraît être une bonne idée. En fait, on attend avant de reprendre le volant. Le problème, c'est que quand on fait notre baromètre et qu'on interroge les Français, ils nous disent, je ne sais pas, de bonne foi, ils nous disent, je ne sais pas combien de temps il faut pour éliminer un verre d'alcool.
C'est 6 heures, c'est ça?
Non, un verre, c'est entre une à deux heures.
Et donc, 3 verres ce soir, 6 heures.
3 verres ce soir, puisque les Français nous ont dit qu'ils allaient boire en moyenne 3 verres, mais il y a quand même la moitié qui vont boire plus.
Bien sûr, c'est une moyenne. Emprunter les petites routes.
Ça sauve pas
des gendarmes.
Ça n'a aucun effet sur l'alcoolémie.
Et rouler lentement, c'est ni plus ni moins que. En fait, il ne faut pas rouler. Si on n'est pas capable de rouler, on ne roule
pas.
C'est
pas ce qui est. C'est parce qu'il ressort le premier, mais il reste des idées reçues de ce type-là.
Merci beaucoup, Sophie Saintin.
Merci à
beaucoup.
Vous.
L'alcool, parce que, évidemment, 80% des Français vont boire. On parlera d'un autre fléau, et je sais qu'il vous inquiète aussi, toutes les associations de protection sur la route, c'est le protoxyde d'azote. J'en parlerai avec un policier d'Alliance Nationale qui sera avec nous à 8h. Il y a des directives qui ont été prises, des consignes qui ont été données. Là, on est sur une beaucoup plus petite partie de la population, mais c'est important d'en parler aussi. Sophie Saintin, déléguée générale de l'association Prévention Routière, je vous souhaite un bon réveillon.
Oui, merci.
Vous conduisez ce soir?
Vous aussi? Non.
Non, voilà. Elle s'est organisée en amont. Martin, exactement. Vous conduisez pas, de toute façon, on va dormir à
22h. Non, ouais, on peut conduire. Je peux conduire, quoi.
Moi, la fête du réveillon, c'est maintenant.
Oui, c'est ça, exactement.
Ce soir, on dort, nous. Donc, c'est maintenant. Merci beaucoup, Sophie Saintin.
Merci à vous.
Merci mille fête. Fois. Et bravo pour cette démonstration assez parlante, 7h24 sur RMC. Dans un instant, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qui s'intéresse à Edith Piaf, l'une des premières stars mondiales françaises. Et puis je vous attends au 32-16 sur tous ces sujets qu'on développe, que ce soit les vœux du président de la République ou le réveillon côté plus festif. Ça a l'air de plus vous intéresser. Et n'hésitez pas, 32-16, on se retrouve dans 60 secondes.
RMC, Apolline Matin.
RMC Gold.
Max prend le contrôle de l'antenne.
Salut, c'est Max. Pour votre soirée du 31 décembre, surtout, mais surtout, n'embauchez pas un DJ. Téléchargez l'appli RMC, parce que sur RMC Gold, ce soir, de 21h à 4h du mat, je vous offre 7 heures de mix de Max avec les meilleurs tubes des années 80 et 90. Eh ouais, on est là pour faire la fête ce soir. Alors on se retrouve pour fêter la nouvelle année, et puis tous les soirs également, de 22h à minuit, dans la libre antenne de Max sur RMC Gold.
Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher?
Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous proposer du frais à moindre frais pour le réveillon. Jusqu'au 31 décembre, le lot de deux avocats est à seulement 1,50€. Et grâce à votre carte Wahoo, cagnotez en plus 10% le jour de votre choix sur tous les produits frais des Halles.
1,50€ les deux avocats? Mon budget est très bien défendu.
Auchan, le choix, le bon. Offre valable en magasin et drive. 89 centimes vendus seul. Origine Maroc, Chili, Colombie et Espagne. Jour Wahoo non valable le week-end. Conditions en magasin et sur Auchan.fr.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h25 sur RMC, RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, c'est tous les jours avec Arthur Chevalier, votre rendez-vous avec l'historien d'Apolline Matin, qui revient ce matin sur le destin d'Edith Piaf, première des superstars françaises de la chanson. Un musée consacré à Edith Piaf va ouvrir à Grasse, dans le sud de la France, d'ici 2027. C'est le plus grand collectionneur de la chanteuse qui va faire don de sa collection pour ce projet. Et pour vous, il était temps de rendre hommage à cet artiste.
Oui, Mathieu, Edith Piaf, c'est une de nos premières stars à être devenue mondialement célèbre. En tout cas, c'est la première chanteuse française à avoir connu un tel succès. Elle a d'autant plus de mérite que franchement, à l'origine, c'était pas gagné du tout.
Alors vous dites ça parce qu'Edith Piaf venait d'un milieu, on peut le dire, très modeste.
Oui, alors je dis ça parce que du début à la fin, la vie de Piaf a été un parcours du combattant et ça a commencé tout de suite. Elle naît en 1915 à Ménilmontant, donc un quartier populaire de Paris. Ses parents la délaissent et elle est élevée par ses grand-mères, Edith Piaf, et c'était pas joyeux. Une de ses grand-mères coupait son biberon avec du vin rouge, l'autre tenait un bordel et c'est pas fini, puisque à l'âge de 7 ans, Edith Piaf devient aveugle. Aveugle. Alors elle va retrouver la vue miraculeusement, mais enfin clairement, c'était pas la vie en rose.
Alors, quand est-ce que sa carrière commence?
Alors, Edith Piaf chantait dans des cabarets du quartier de Pigalle à Paris, et un jour, un producteur la repère. il lui donne son nom de scène, la Môme Piaf, et il lui fait enregistrer son premier disque. En 1936, ça s'appelait Les Mômes de la Cloche. Ça fonctionne, Piaf devient très vite une célébrité. Sa voix chaude qui roule les airs envoûte le public, son style est lui aussi incomparable. Hein. Elle se fout de tout et surtout des conventions. La France a une nouvelle idole, elle est aussi insolente que talentueuse.
Et c'est elle qui écrivait ses chansons.
Alors, pas toutes, mais effectivement les plus connues, comme La vie en rose et L'hymne à l'amour, c'est elle, oui. Piaf était une très grande parolière, une performance pour quelqu'un qui n'avait quasiment pas été à l'école et surtout qui ne savait ni lire ni écrire la musique.
Et Edith Piaf, faut s'en rendre compte, c'est une célébrité mondiale.
Oui, et surtout une vedette américaine. Elle se produit plusieurs fois sur la mythique scène du Carnegie Hall à New York, hein, où d'ailleurs à chaque fois elle faisait salle comble. C'est la première fois qu'une chanteuse française faisait la conquête des États-Unis. Aujourd'hui d'ailleurs, quand vous demandez à un Américain de vous parler de la France en général, il vous répond Piaf à tous les coups.
Et bien sûr, Piaf, c'est aussi une vie d'excès qu'elle va payer cher.
Oui Mathieu, Piaf a été alcoolique et addict aux opiacés toute sa vie, ou presque, hein, d'ailleurs elle le disait elle-même, c'était sa façon de noyer son chagrin. Dans les années 1960, elle est physiquement à bout, malade, épuisée, elle meurt très jeune, à 47 ans. Le jour de ses obsèques au Père Lachaise à Paris, 40 000 personnes accompagnent le cercueil, c'est dire l'amour qu'elle suscitait.
Et la boucle est bouclée en fait. Le Père Lachaise, faut le dire, hein, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas la capitale, on est à 200 mètres du métro Ménilmontant.
De là où elle est.
De là où elle est. Il est 7h28 sur RMC, RMC Story, après le journal de 7h30, Edwige Diaz, porte-parole, député du Rassemblement National, les vœux d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on en attend? Et puis les hommages à Brigitte Bardot, ça a agité la classe politique cette semaine, on en parle dans quelques instants avec vous, évidemment, au 32-16, mais vos appels sont plus festifs ce matin, continuez, n'hésitez pas, on revient dans quelques secondes.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin,
Mathieu Béliard.
Il est 7h17, vous êtes sur RMC, RMC Story. Cette année, on a un réveillon en milieu de semaine. Ça veut dire plus de déplacements, plus de risques. 79% des Français vont boire ce soir. Mais bien réveillonné doit rimer avec bien rentrer. C'est votre parti pris ce matin, Sophie Saintin, déléguée générale de l'association Prévention Routière. Bonjour.
Bonjour.
On s'est vu l'an dernier le même jour,
le 31 décembre. À peu près à la même heure.
Il y a des choses à rappeler qui ne rentrent toujours pas. Donc quand on dit qu'un quart des Français prévoit de prendre la voiture pour rentrer, précisons quand même que beaucoup surestiment leur capacité à gérer. Je mets des guillemets sur le mot gérer. Pour vous, quand on organise la soirée, on doit déjà organiser le retour au moment des courses, de l'organisation, de la préparation du repas. C'est pas après 3 ou 4 verres qu'on prend la décision.
Non, exactement. Et il est encore temps, hein. Il est tôt ce matin. On a déjà organisé sa soirée du réveillon. Et ce qu'on vient de dire, enfin, ce que notre association répète au mois de décembre aux gens, c'est quand on organise la soirée, on organise aussi le retour. On anticipe et on choisit sa solution pour bien rentrer. Vous l'avez dit, notre credo, c'est bien réveillonner, ça doit rimer avec bien rentrer. Pour que la fête reste
belle. Ouais, on prévoit un SAM, hein, celui qui ne boit pas. Ou alors on prévoit de rester sur place quand on accueille un petit matelas gonflable. Enfin, il y a plein de choses à penser. Je vois que vous avez des éthylotests.
Exactement.
Pas du luxe.
Dans les propositions qu'on suggère, hein, il y a dormir sur place, c'est la solution la plus sûre. Cette année, le réveillon tombe en milieu de semaine, donc on sent que c'est pas la solution qui a été la plus choisie. Mais on incite, hein, ce matin, si vous avez encore rien décidé, prenez cette option. C'est l'une des plus sûres. Ensuite, on choisit un SAM. En effet, vous l'avez dit, SAM, le capitaine de soirée, c'est celui qui ne boit pas et qui va ramener tout le monde à bon port. Pareil, SAM, on le choisit avant le début de la soirée. Comme ça, on sait bien qui ne boit pas.
Mais il n'y a pas de doute, ouais.
Il y a plein de d'alternatives, des mocktails, enfin plein de choses pour que la fête reste belle sans alcool forcément. Et en cas de doute, vous l'avez dit, on utilise un éthylotest. J'en ai pris, hein, et ils sont vendus dans les grandes surfaces.
Ouais, maintenant on en trouve facilement.
On en trouve facilement.
Alors, ce qui vous inquiète particulièrement sur cette soirée du 31, et c'est important de le préciser. Bon, certains vont peut-être aller au resto ou dans des bars, mais beaucoup vont accueillir ou se déplacer chez des amis. Et la réalité, c'est que les verres qu'on sert n'ont rien à voir. Dans un bar, c'est dosé, c'est légal, c'est réglementaire. Et puis, il y a des questions de marge aussi du revendeur. À la maison, on a tendance à surdoser les verres.
On est généreux, oui.
C'est pour ça que vous avez un petit test, un petit...
un petit peu de matériel. On a une bouteille, un verre. Exactement. On n'est pas non plus dans une production hollywoodienne. Je vais juste m'approcher de vous.
Mathieu, je vous ai ramené l'atelier de sensibilisation que nos bénévoles déploient tout au long de l'année quand on parle alcool et conduite. Ça s'appelle l'atelier Dose Bar, Dose Maison. Et c'est, en effet, c'est le but, c'est de faire la comparaison finalement. Comment on sert un verre à la maison? Est-ce que quand on sert un verre, on sert vraiment un verre ou est-ce que on en boit déjà un ou deux?
Et comment est-ce qu'on compare du coup? Alors
moi, je vais vous montrer.
C'est censé être de l'alcool?
Ça, voilà, c'est une bouteille avec du colorant alimentaire.
On imagine un alcool fort.
Exactement. Je vais vous demander, Mathieu, de me servir un verre comme à la maison. Vous me serviriez un verre d'un alcool.
On pense qu'il y a un glaçon en plus. Je pense que un alcool fort, je serais là-dessus, moi.
J'ai le droit de vous. Enfin, voilà, whisky.
Oui, voilà. On imagine un spiritueux. Je sais pas, juste un doigt, comme on disait dans le film, là. Voilà.
Ok, donc là, vous pensez que vous avez servi un verre, Mathieu, c'est ça?
J'ai servi un verre.
Alors, maintenant, on va faire la démonstration. Je vais tester. J'ai amené un verre doseur. Vous voyez, vous avez les équivalences.
Ouais, alors si ma mémoire est bonne, c'est 4-5 centilitres normalement, c'est un verre de.
Voilà, un verre de whisky spiritueux, comme vous disiez, 40 degrés, c'est 3 centilitres. Bon, on vérifie.
J'ai peur. Je vais à votre autre verre et maintenant j'ai un
pastorin, Mathieu.
Alors, je fais la démonstration.
C'est l'heure de la pita, on fait les bruits de. C'est pas sorcier.
C'est pas mal. Voilà.
Alors, combien vous pensez?
J'ai vu tout à l'heure votre gradation. Je suis au double en fait.
Exactement.
Je suis au double.
Exactement.
Je suis exactement au double de la dose qu'on aurait eu dans un bar.
Un peu plus.
Donc si je me dis que je vais boire deux verres, en fait, dans un verre, j'en ai déjà bu deux.
Exactement.
C'est ça votre message.
C'est ça notre message. C'est qu'en fait, quand vous pensez avoir bu un verre, bonne fois, vous en avez finalement bu deux. Et donc la question de la reprise du volant, elle va commencer à être problématique. C'est pour ça que, en fait, notre message, c'est pas de dire ne faisons pas la fête. Non, notre message, c'est alcool et conduite sont incompatibles. On peut pas reprendre le volant quand.
Désolé de casser l'ambiance. On va beaucoup sourire ce matin, on va s'amuser aussi, c'est le 31. Mais ce soir, 15 personnes vont perdre la vie. Une quinzaine de personnes vont perdre la vie sur la route. C'est très concret. Et je rappelle aussi les fausses bonnes idées que vous listez. Attendre avant de prendre le volant, on n'a aucune idée de combien de temps il faut pour évacuer.
Alors oui,
on a bu.
Attendre, vous allez me dire, ça paraît être une bonne idée, en fait. On attend avant de reprendre le volant. Le problème, c'est que quand on fait notre baromètre et qu'on interroge les Français, ils nous disent, je ne sais pas, de bonne foi, ils nous disent, je ne sais pas combien de temps il faut pour éliminer un verre d'alcool.
C'est 6 heures, c'est ça?
Non, un verre, c'est entre 1 et 2 heures.
Donc, 3 verres ce soir, donc 6 heures.
3 verres ce soir, puisque les Français nous ont dit qu'ils allaient boire en moyenne 3 verres, mais il y a quand même la moitié qui vont boire plus.
Bien sûr, c'est une moyenne. Donc, emprunter les petites routes.
Ça sauve pas
des gendarmes.
Ça n'a aucun effet sur l'alcoolémie.
Et rouler lentement, c'est ni plus ni moins que. En fait, il ne faut pas rouler. Si on n'est pas capable de rouler, on ne roule
pas.
C'est
pas ce qui est. C'est parce qu'il ressort le premier, mais il reste des idées reçues de ce type-là.
Merci beaucoup, Sophie Saintin.
Merci
beaucoup.
À vous.
L'alcool, parce que, évidemment, 80% des Français vont boire. On parlera d'un autre fléau, et je sais qu'il vous inquiète aussi toutes les associations de protection sur la route, c'est le protoxyde d'azote. J'en parlerai avec un policier d'Alliance Nationale qui sera avec nous à 8h. Il y a des directives qui ont été prises, des consignes qui ont été données. Là, on est sur une beaucoup plus petite partie de la population, mais c'est important d'en parler aussi. Sophie Saintin, déléguée générale de l'association Prévention Routière, je vous souhaite un bon réveillon.
Oui, merci.
Vous conduisez ce soir?
Vous aussi? Non.
Non, voilà. Elle s'est organisée en amont. Martin, c'est vous tôt. Conduisez pas, de toute façon, on va dormir à
22h. Non, ouais, on peut conduire. Je peux conduire, quoi.
Moi, la fête du réveillon, c'est maintenant.
Je oui, c'est ça, exactement. Dire.
Ce soir, on dort, nous. Donc, c'est maintenant. Merci beaucoup, Sophie Saintin.
Merci à vous.
Merci mille fête. Fois. Et bravo pour cette démonstration assez parlante, 7h24 sur RMC. Dans un instant, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qui s'intéresse à Edith Piaf, l'une des premières stars mondiales françaises. Et puis je vous attends au 32-16 sur tous ces sujets qu'on développe, que ce soit les vœux du président de la République ou le réveillon côté plus festif. Ça a l'air de plus vous intéresser. Et n'hésitez pas. 32-16, on se retrouve dans 60 secondes. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Un braquage digne des films hollywoodiens en Allemagne. Une banque cambriolée à grand renfort de perceuses géantes, des milliers de coffres éventrés et des clients qui sont venus hier devant l'établissement pour demander des comptes. Gérald Darmanin qui veut multiplier les fouilles XXL en prison. Et il y a quoi au menu du Nouvel An chez vous? RMC vous a écouté et vous livre les meilleures recettes pour briller ce soir.
Et donc d'abord ce super casse à Gelsenkirchen.
Oui, ça pourrait être le titre d'un film d'action. Vous allez voir que le scénario de ce braquage en Allemagne y ressemble aussi. Ça s'est passé ce week-end dans cette ville de l'ouest du pays. Une banque cambriolée juste après Noël, ses murs et ses coffres découverts perforés au petit matin. 30 millions d'euros dérobés en bijoux, en or et en objets de valeur. Léonie Guilbeault, aucune trace des malfaiteurs ni du butin. Et c'est bien ça qui panique les clients venus manifester hier.
Laissez-nous entrer, scande une foule de clients mécontents venus demander des comptes, comme cet homme.
J'avais beaucoup d'argent et de bijoux appartenant à ma famille dans un coffre. C'est déprimant et très suspect que rien n'ait fonctionné. Ni la caméra, ni le détecteur de mouvement, tout était éteint. Une banque, c'est censé être un endroit sûr.
Et pourtant, les braqueurs se sont introduits dans la banque en forant un trou de 40 cm dans l'épais mur de la chambre forte à l'aide d'une perceuse géante. Plus de 3000 coffres ont été forcés. L'enquête ne fait que commencer, mais pour l'instant, impossible de dater avec précision le moment du braquage ou d'en identifier les auteurs. Tout ce que l'on sait, c'est qu'une Audi noire avec de fausses plaques d'immatriculation, conduite par des hommes masqués, a quitté les lieux vers 4h du matin lundi. Tout s'est déroulé de manière très professionnelle, comme dans le film américain Ocean Eleven, résume une source policière.
Les précisions de Léonie Guilbeault pour RMC. Tous les services assurés aujourd'hui, mais des retards de dernière minute encore possibles. C'est ce que promet Eurostar après une panne électrique hier dans le tunnel sous la Manche. Deux tiers des trains pour aller ou venir de Londres avaient été supprimés.
Gérald Darmanin veut systématiser les fouilles XXL en prison.
Le garde des Sceaux faisait hier le bilan de cette opération lancée dans toute la France il y a un peu plus d'un mois. Des centaines de téléphones saisis, tout comme 2600 objets dangereux. Alors, il compte bien rendre ses fouilles plus régulières, Pierre Bazin.
Oui, un bilan dont semble se satisfaire le ministre de la Justice qui visait surtout les téléphones, mais avec 1800 portables trouvés en cellule. Le chiffre démontre le manque d'efficacité de ces fouilles XXL, selon Flaviro du syndicat national des directeurs pénitentiaires.
C'est un bilan qu'on peut considérer comme assez mitigé. Finalement, on a trouvé une cinquantaine de téléphones par jour avec ces opérations de fouilles XXL. Donc on voit très bien que ces mesures de fouilles, elles sont finalement assez peu efficaces par rapport à ce qu'on est en capacité de faire habituellement pour un coût RH bien moins important.
Gérald Darmanin a également annoncé qu'il voulait revoir le fonctionnement des fouilles classiques en les rendant plus systématiques, mais pour Flaviro, la doctrine en place est parfaitement équilibrée.
En réalité, c'est la réalisation qui pêche. Quand vous avez trois personnes au lieu d'une dans une cellule, il est devenu particulièrement difficile de fouiller une cellule qui a beaucoup trop d'objets à l'intérieur. Et puis, dans un second temps, quand on n'a pas le nombre d'agents suffisants pour pouvoir procéder à des fouilles régulières, on ne peut pas restaurer l'ordre sans traiter ces deux questions essentielles.
Installer de meilleurs portiques de sécurité et des systèmes anti-drones serait davantage utile, selon les syndicats.
Et Gérald Darmanin qui appelle les procureurs à requérir de la prison ferme en cas de violence contre les forces de l'ordre pour le réveillon du nouvel an. Tolérance zéro, c'est le maître mot cette fois du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. 90 000 gendarmes et policiers seront mobilisés partout en France ce soir. Et maintenant, parlons repas. Vous allez peut-être vous affairer en cuisine toute la journée pour préparer le dîner. Normalement, vous avez une idée assez précise du menu, mais si ce n'est pas le cas, quelques inspirations dénichées auprès des Parisiens par Victor Girard.
Pour recevoir au mieux sa famille ce soir, Claude, 72 ans, a sa spécialité.
Le foie gras en entrée, tous les ans, c'est un rituel. Là.
Une tradition à laquelle elle ne déroge jamais.
On m'a dit une fois que mon foie gras était très bon, donc maintenant, je suis préposée au foie gras.
Mais attention, ici, la cuisson est millimétrée, pas le droit à l'erreur.
Pour 500 grammes, c'est à peu près 4 minutes, et il ne faut pas dépasser. Sinon, c'est trop cuit et c'est moins bon.
L'entrée est prête, place maintenant au plat principal.
Madame, bonjour. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ?
À la sortie de la boucherie, Marie a fait son choix.
Une poularde au morille.
Direction la cuisine sans perdre de temps.
Il faut enlever la carcasse, revenir les morceaux. Ensuite, il faut mettre le vin jaune et rajouter les morilles. À la fin, la crème fraîche avec un jaune d'œuf pour lier le tout. Tout seul, c'est un petit peu la course, mais j'aime ça. Voilà.
Dernière étape, le dessert.
Vous avez une bûche, une frangipane et des chocolats.
Patricia comme Serge sortent de la boulangerie car les desserts maison.
C'est très long, c'est fastidieux.
C'est presque de la chimie. C'est au poil près, hein. Sinon ça se dégonfle. Donc ou c'est trop dur ou c'est trop mou. Ou c'est trop sec, là, on est tranquille.
Il a hâte de partager son kouglof alsacien avec sa femme.
Moi, je vous attends. Hein. Moi, dès qu'on parle de cuisine, je vous attends au 32-16. Deux petites choses à souligner avec vous. D'abord, les traditions du Nouvel An avec Bérangère Bocquillon, juste avant le journal de 8h. On va s'intéresser aux Français qui vont au resto. On a beaucoup cuisiné la semaine dernière pour les fêtes de Noël. On en a un peu marre. On veut sortir, on veut se faire plaisir. Est-ce que vous êtes de la team resto, soirée, théâtre, les villes, les centres-villes seront remplis ce soir. Je vous attends au 32-16. Sinon, à 8h40, on fait venir le resto ici. Avec le chef Julien Dumas, restaurant bistronomique chez lui. Alors, il a un menu un peu cher, hein, on va pas se mentir, ce soir. Mais il vient ce matin vous donner quelques petites astuces, des bons plans, justement, pour ceux qui seraient encore dans les dernières courses, dans les derniers préparatifs. Pour ne pas se ruiner, vous avez des astuces, recettes, des envies à partager. 32-16, n'hésitez surtout pas.
Eux vont devoir y aller mollo ce soir, les rugbymen du top 14. Ils n'ont pas coupé pendant les fêtes et c'est d'autant plus vrai pour les leaders. Les joueurs toulousains qui se savent prévenus par leur staff, Maria Azé, pas d'excès. Hein.
À Toulouse, les consignes sont claires. Dimanche dernier, après la victoire contre La Rochelle sur Canal+, le manager Hugo Mola prévient ses joueurs.
Je suis désolé de me récupérer le calendrier, donc on profitera plus tard. On fait pas une soirée de champion et notamment les champions du 31. Hein. Tout.
Joël Mercler, pilier toulousain, l'a compris ce soir, doucement sur le champagne et les petits fours.
Il faut un peu limiter les festivités, mais c'est des périodes qu'on connaît beaucoup.
Santiago Chocobares, lui, reçoit de la visite d'Argentine pour le nouvel an.
Et j'ai la chance qu'ils me potent, qu'ils viennent à Toulouse, chez moi.
Mais le centre toulousain garde en tête le déplacement à Perpignan samedi.
Et on est habitué à ça depuis, je suis là depuis quelques années, et on sait qu'on a en plus un gros match. Ça passe pour chacun d'être professionnel les jours qui avant. Et après, de bien se préparer et bien arriver à ces jours-là pour faire un bon match tous ensemble.
Car le stade toulousain n'a pas le droit à l'erreur. Les Rouges et Noirs terminent 2025 en tête du top 14, mais restent sous la menace de la section paloise, deuxième du championnat.
Et les courses, c'est à Vincennes.
Rendez-vous à 13h55, le 15, InRed est le favori de la Dream Team des courses RMC. L'outsider, c'est le 9, Indigo de Fontaine, le 15 et le 9.
Merci beaucoup Victor, c'était le journal de 7h30, il est 7h38 et on est en ligne à présent avec Mathieu Triclot, président des Sociaux Sochaux. Bonjour.
Bonjour.
Alors les sociaux chauds, pardon, c'est dur à dire.
Ah, il faut s'entraîner, oui.
Ouais. Les sociaux chauds, je le précise, c'est une association de supporters qui a une particularité. L'association est actionnaire du club de Sochaux. Il y a 3 ans, vous avez déjà participé au sauvetage du club historique. Et là, vous venez de remettre la main au portefeuille pour financer le centre de formation. Alors on parle de 130 000 euros. Ils viennent d'où et ça finance quoi très concrètement au centre de formation?
Alors, effectivement, le FCSM, c'est un club particulier, le FC Sochaux Montbéliard, parce que les supporters sont propriétaires, hein, pour partie du club. On a environ 8% du capital et on est représenté via l'association à la gouvernance du club. Donc, c'est notre troisième année. Enfin, on va rentrer dans la troisième année de ce modèle-là. Et cette année, on a choisi de refaire une levée de fonds, comme à l'été 2023, mais fléchée sur le centre. Alors, pour financer... des choses très concrètes, enfin, là, c'est des projets comme la rénovation des chambres, des sanitaires, enfin, améliorer donc les conditions d'accueil pour les gamins qui seront là au centre.
Oui, mais alors là, vous parlez du club et de la vie du club, c'est une urgence le centre de formation?
C'est au cœur du projet, hein, du FC Sochaux. On est en troisième division aujourd'hui, donc en national, et on a maintenu cette infrastructure du centre de formation, enfin qui est l'un des plus performants de France, hein, qui a sorti énormément de grands joueurs. On a des internationaux qui sont passés par chez nous et dont on est très fiers, Thuram, Konaté, pour pas les nommer. Et donc oui, enfin tout le projet du club là, c'est de se centrer sur le développement des jeunes joueurs. Et pour ça, bah, il faut passer la barre du national et il faut revenir à pérennité économique en Ligue 2. Et à ce moment-là, on va pouvoir préserver, sauver cet instrument extraordinaire qu'est
une institution dans le foot français, il faut le dire, le FC Sochaux-Montbéliard. Une institution. Alors ce qui interpelle évidemment, au-delà de la vie du club, qui vous tient à cœur bien entendu, c'est votre modèle. En fait, les sociaux, c'est inspiré de ce qui se fait dans le foot espagnol. Les supporters actionnaires. Alors qu'est-ce que ça change concrètement dans la gouvernance du club aujourd'hui, puisque vous parlez d'un retour d'expérience de 3 ans?
Bah, ça change tout. Enfin, c'est un modèle différent du foot business, hein, concrètement. C'est ça dont on parle. Ça veut dire que autour d'un club comme Sochaux, vous avez toutes les parties prenantes qui sont là, les actionnaires privés, les collectivités qui sont présentes aussi à la gouvernance avec les supporters. Bah, ça permet d'abord, la première chose, c'est un contrôle, en fait. Parce que si on arrive à cette histoire-là à Sochaux, c'est qu'on a vécu tous les aspects du foot business et de la mauvaise gestion. Ça peut arriver avec le type de transparence. Mmh. Garantissent des modèles de sociaux, et après c'est un accélérateur extraordinaire pour le développement du club. Voilà, là on vient mettre de l'argent sur le centre de formation, mais on développe des projets de culture club en permanence. Voilà, on a fait des frais au stade Bonal, on fait la rénovation, on a repeint avec les jeunes joueurs du centre de formation. Donc ça c'est des choses uniques. En fait, dans quel club on voit les supporters et les gamins du du centre de formation prendre soin du stade. Voilà.
Bah, bravo Mathieu Triclot, 3 ans d'expérience, une nouvelle levée, l'investissement dans le centre de formation. Mathieu Triclot, président des Sociochaux, je l'ai bien prononcé cette fois, les sociaux du FC Sochaux Montbéliard. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes et bon réveillon à vous. Il est 7h41.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et Patricia est en ligne avec nous depuis l'Isère. On est à Grenoble. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Patricia, vous travaillez cette nuit et demain?
Oui, alors moi je travaille cette nuit et demain. Et c'est vraiment avec un grand, grand plaisir que je travaille. Parce que j'ai la chance de faire un boulot que j'adore.
Vous êtes aide-soignante, je vois.
Oui, je suis aide-soignante de nuit en EHPAD.
D'accord, bah, on a besoin de vous. Hein. Mm. On a besoin de vous, Patricia, évidemment. Oui.
Et ô combien utile. Hein.
Mais vous vous sentez utile particulièrement cette nuit-là?
Pas forcément cette nuit-là, non, je pense qu'on est utile toutes les nuits, en fait. Il n'y a, ouais, a pas spécialement de nuit, on ne peut pas dire que le 25 ou le 1er, on soit particulièrement utile, non.
Et c'est quoi vos horaires, Patricia, là, dans les 24 heures qui viennent?
Alors, quand on travaille en 10 heures, alors par exemple, moi ce soir, je suis en 10 heures, donc c'est 20h45 jusqu'à 6h45.
D'accord. Et à 6h45, vous pourrez rentrer dormir un peu?
En général, je passe 5-10 minutes avec mes collègues infirmières ou aides-soignantes que je croise. Et puis après, ouais, je rentre.
Surtout demain, il y a peut-être un petit pot, quelque chose d'organisé, non?
Ben non, parce que demain, je retravaille. Donc, je rentre, douche.
Ça s'arrête jamais.
Non, mais c'est un grand plaisir. Moi, j'ai la chance de faire un boulot que j'ai choisi et que j'adore.
Mais Patricia, c'est partagé, je vous le dis. Et on est en train de parler de ce soir. Nous, demain, on sera là en direct comme tous les autres jours de l'année. Donc, pour votre horaire de travail, à 6h45, sachez-le, quand vous terminez, il y aura Martin Bourdin et Pascal de la Tour du Pin pour vous accompagner sur le retour à la maison, en direct bien sûr, et moi je serai là dès 7h évidemment. Patricia, c'est quoi la musique de minuit pour vous le soir du réveillon?
Alors, moi j'aime bien la Compagnie Créole. J'ai pas de musique particulière, mais la Compagnie Créole, c'est pas mal.
Bah oui, c'est bon pour le moral.
Est-ce que je peux faire un petit coucou?
Allez-y, rapidement.
Alors, je voudrais faire un coucou à tout le personnel soignant, à toutes les personnes qui travaillent de nuit, pas spécialement le personnel soignant, les pompiers, les boulangers, tous ceux qui sont présents.
Et qui sont à l'écoute d'RMC ce matin. Patricia, on les salue et on attend vos témoignages d'ailleurs. Vous êtes interpellée par Patricia ce matin, vous travaillez ce soir ou demain. On vous attend au 32-16. Merci Patricia. Dans un instant, les avant-derniers vœux d'Emmanuel Macron, c'est ce soir, à suivre sur RMC. Bonjour Edwige Diaz.
Bonjour.
Députée et vice-présidente du Rassemblement National. Alors qu'attendre des vœux du président? Autre débat, quel hommage doit-on rendre à Brigitte Bardot aussi? Vous nous répondez dans une minute. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Et bon réveil à toutes et à tous à l'écoute d'RMC, il est 7h45, les avant-derniers vœux d'Emmanuel Macron ce soir à 20h, à suivre sur RMC bien entendu. Les derniers vœux du président même avant une année pleine, on sait que dans un an on sera dans un autre timing politique. 37% des Français ont prévu de les regarder, c'est peu. Bonjour Edwige Diaz.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Députée et vice-présidente du RN, les 37%, vous en ferez partie? Vous attendez quoi du président de la République ce soir?
Écoutez, c'est la 9e fois qu'il va s'exprimer et je pense, comme une immense majorité de Français, vivement que ça s'arrête. Voilà, je pense que le président de la République va encore parler ce soir dans un 9e exercice de communication. Mais surtout, c'est qu'on attend les résultats de ses promesses de l'année dernière, figurez-vous. Parce que j'ai regardé les vœux de l'année dernière pour me rafraîchir de la mémoire. Il a parlé de la crise agricole. Est-ce qu'elle a été réglée depuis? Absolument pas, sinon nos agriculteurs n'auraient pas passé les fêtes sur les barrages. Il avait promis la reconstruction de Mayotte suite au cyclone Chido, vous vous en souvenez. Les Mahorais nous parlent d'inertie. Il avait promis la sécurité. Bon, je crois que tout le monde sait que l'insécurité, malheureusement, fait partie du décor national. Il avait promis de baisser le chômage. Moi, je vois dans ma région, vous savez, en Nouvelle Aquitaine, eh bien, ce sont 30 000 demandeurs d'emploi en plus.
La réponse.
Oui, aux promesses de l'année dernière, mais en définitive, je n'attends pas grand-chose parce que vous savez, moi, je fais partie de ces 82% de Français qui ont une opinion défavorable du président de la République. Donc, écoutez, je me dis vivement l'année prochaine que ce soit la dernière fois qu'on l'entende.
Un débat dans l'actualité des fêtes, des voix qui réclament un hommage national pour Brigitte Bardot, d'autres un hommage populaire à la Johnny Hallyday. L'Élysée a fait savoir que la famille de Brigitte Bardot n'a pas donné de suite à des propositions d'hommage. Marine Le Pen se rendra à Saint-Tropez le 7 janvier prochain aux obsèques de Brigitte Bardot à titre personnel et amical, est-il précisé. Votre allié, Éric Ciotti, a lancé une pétition pour réclamer un hommage national. Vous l'avez signée cette pétition ?
Non, je ne l'ai pas encore signé, mais c'est vrai que Brigitte Bardot mériterait. C'était un monument de la culture française. Elle fait partie de notre patrimoine artistique, notamment. Elle incarnait l'élégance, cet art de vivre à la française. Donc, si la famille le souhaite, bien évidemment, eh bien oui, je pense que Brigitte Bardot mérite.
Mais vous avez compris, Louis Diaz, que certains quand même émettent des réserves. Je pense à Olivier Faure, qui salue une actrice iconique, mais qui estime que l'artiste a plusieurs fois condamné pour des propos racistes et homophobes, avait tourné le dos aux valeurs républicaines. Hommage national, c'est pas rien, hein. C'est la Cour des Invalides, c'est quelque chose d'assez officiel, Edwige Diaz.
Bah écoutez, très sincèrement, je pense que Monsieur Faure, président voilà du groupe,
premier
secrétaire du Parti socialiste, vous voyez, j'ai du mal à le dire parce que je pense que comme beaucoup de Français, on voit pas très bien ce qu'il fait Monsieur Faure, à part pour l'instant se vendre aux macronistes pour conserver son poste à l'Assemblée nationale.
Mais
c'est important. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez d'un côté quelqu'un qui fait de la politique politicienne, qui est un représentant d'un parti politique qui a fait 1% à l'élection présidentielle et qui se permet de mépriser une icône française. Vous voyez, je vous disais ça juste pour qu'on voit le décalage entre les deux personnes.
Il parle d'une actrice iconique, Edwige Diaz. On peut apprécier Brigitte Bardot sur un aspect et moins sur un autre. Je ne sais pas, vous prenez toute Brigitte Bardot, vous ?
On a bien vu que la gauche a fait part d'une indignité nationale, pour le coup, quand elle s'est permis d'émettre des jugements absolument défavorables sur une personnalité française qui a été adulée
et qui a contribué
au rayonnement national. Non, mais Madame Bardot a peut-être tenu des propos que je n'aurais pas tenus. Mais en tout cas, je veux dire, on peut pas réduire l'immensité de cette personne. Ces 91 années, ce qu'elle a fait pour le pays, ce qu'elle a fait pour les animaux, les valeurs pour lesquelles elle s'est battue, eh bien, je pense, moi, oui, que ça mérite un hommage appuyé. Et pardon de le dire, mais le comportement indigne de certaines personnalités de gauche et d'extrême gauche a profondément choqué dans la population.
C'est dit. Ce matin, dans le Figaro, on lit des éléments de bilan de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, vous l'avez peut-être lu, suite à des décisions qui viennent directement de son bureau. La régularisation des sans-papiers a diminué de 42%. Les naturalisations suivent la même tendance, un quart de moins. Une autre circulaire sur le bureau de Bruno Retailleau. On dit quoi au RN ? On dit bravo Retailleau ?
On dit que vivement que le Rassemblement National arrive au pouvoir pour mettre fin à ces artifices de communication. Parce que
c'est un artifice, c'est des chiffres, Edwige Diaz. C'est des chiffres.
Attendez.
Réduit de 42% les régularisations de sans-papiers.
Après que ça ait considérablement augmenté. D'accord, mais regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe tous les jours en réalité. Il y a beaucoup trop de clandestins, de personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire national et qui en plus créent des victimes. Vous voyez,
mais vous ne voulez pas lui donner le point.
Mais écoutez, non, parce qu'il a siégé dans un gouvernement qui comportait des socialistes. Et donc, en fait, on ne peut pas faire du en même temps, même si on s'appelle Monsieur Retailleau. Et si Monsieur Retailleau avait très envie de lutter contre l'immigration illégale, eh bien, qu'il rejoigne le Rassemblement National. Vous voyez, alors, pour faire une bonne résolution pour 2026.
Edwige Diaz, 2026, projetons-nous. Marine Le Pen, son procès en appel qui démarre le 13 janvier. On va savoir si elle peut être candidate ou non, si c'est Jordan Bardella, votre champion du RN pour 2027, mais selon Marine Le Pen, les juges veulent sa peau et elle n'en réchappera pas. Il fut un temps où on pouvait prendre une balle. Aujourd'hui, on prend une balle judiciaire, ce qui signifie votre mort, dit-elle à la tribune dimanche, le week-end dernier. C'est des mots assez lourds vis-à-vis de la justice. Les juges sont des assassins, Edwige Diaz.
Alors, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que la magistrate en charge du dossier avait clairement indiqué, et de toute façon, c'est public, qu'il fallait que Marine Le Pen soit empêchée de se présenter à l'élection présidentielle. Partant de là, vous pouvez en effet douter de la neutralité de cette magistrate. Mais vous n'entendrez jamais le Rassemblement National jeter l'opprobre sur l'intégralité du monde judiciaire, parce que ça n'est pas ce que nous pensons. Maintenant, oui, nous espérons que le procès en appel qui s'ouvrira dans quelques jours, eh bien, reconnaîtra l'innocence de Marine Le Pen, parce que oui, nous le disons, elle est innocente.
On suivra évidemment à partir du 13 janvier. Merci beaucoup Edwige Diaz, députée et vice-présidente du Rassemblement National en direct sur RMC ce matin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Il est 7h51. Bonjour Bérangère Bocquillon.
Bonjour Mathieu.
Il est 7h51 et toute la semaine on s'intéresse aux traditions du Nouvel An.
Ouais, aujourd'hui on va parler des sorties parce que vous savez, pour les restaurateurs, le réveillon du 31, c'est la troisième soirée la plus importante de l'année.
Est-ce que vous allez au resto? Dites-le nous au 32-16, on en parle dans un instant, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
À tous ceux qui vont devoir mettre la dernière paire de chaussettes du tiroir, celle qui s'enroule dans la chaussure, qu'on passe la journée à remonter pour au final marcher sur une chaussette en boule jusqu'au soir. La lessive, on ne peut pas faire sans. Alors Intermarché vous rembourse 100% de vos achats en deux bons d'achat sur les rayons soins du linge et entretien de la maison. Et c'est aussi sur l'appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 4 janvier, des 40 euros d'achat et dans la limite de 50 euros, réservé aux porteurs de la carte fidélité. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, Apolline Matin.
7h52, c'est l'heure du bonus RMC. Alors on croyait qu'elle avait tout fait, Martin, mais Beyoncé vient de rentrer dans un cercle très fermé. Elle dirige pas encore le monde, Beyoncé, mais elle vient de devenir milliardaire. Rien que ça, c'est seulement la cinquième musicienne à obtenir ce statut, après son mari, Jay-Z, dans le couple, ils sont pas mal. Taylor Swift, oui. Bruce Springsteen et Rihanna également font partie.
Ils sont en couple dans le top 5.
Ouais, c'est ça.
Joli.
Bruce Springsteen, Rihanna et Taylor Swift également dans ce cercle fermé. Fortune amassée pour Beyoncé en très grande majorité grâce à sa musique, explique le magazine Forbes, notamment par sa dernière tournée, le Cowboy Carter Tour. Tournée la plus lucrative de l'année 2020. Pour une artiste solo, 400 millions de dollars de revenus. Celle d'avant lui avait rapporté 600 millions de dollars, assure Forbes. Entre ça et son catalogue XXL de chansons, Beyoncé est la troisième artiste la mieux payée au monde.
RMC, Apolline Matin.
7h53, vous savez quoi, Bérangère, ce rendez-vous va me manquer la semaine prochaine.
Mais j'espère
les
bien.
Traditions du Nouvel An, tous les matins, juste avant 8h avec vous, Bérangère. Et aujourd'hui, les sorties du réveillon.
Ouais.
Au restaurant, en boîte, au théâtre, au spectacle, éventuellement, Bérangère, 16% des Français vont au restaurant le soir du 31 décembre.
Ouais, parce qu'un restaurant sur deux est ouvert le soir du 31 et en général, ils sont pleins. Alors, qui va au resto pour la Saint-Sylvestre? Surtout les habitants des grandes villes. Oui, parce que dans les grandes villes, on sait plus trop cuisiner. C'est Bernard Boutboul, le directeur du cabinet Gira Conseil, qui me l'explique.
Dans ces villes-là, on cuisine de moins en moins et on peut être plus aisé que la moyenne. Quand vous êtes en milieu rural, les réveillons se passent chez les uns et chez les autres. D'ailleurs, le 31 décembre n'est pas la soirée la plus forte chez les restaurateurs. La soirée la plus forte, c'est la Saint-Valentin, suivie de la fête des mères. Et en troisième position, on a le 31 décembre. C'est pas automatiquement le programme culinaire que vous payez, c'est la soirée, c'est l'ambiance, parce que on va sûrement danser, voire chanter, des karaokés dans certains. Bref, on paye plus l'animation et le temps qu'on va passer cette soirée et cette nuit que le programme culinaire.
Alors attention, moi j'ai quand même quelques souvenirs de flânerie du 31. C'est pas donné le menu du 31.
Oui, alors non, figurez-vous que l'an dernier pour le réveillon, les clients ont dépensé 68 euros, c'est une moyenne, au restaurant. C'est plus du double de ce qu'ils dépensent quand même un samedi soir par exemple. C'est le pari d'ailleurs qu'a fait Pierre Olrich dans son restaurant Bonbon en Sarenne. Il a commandé à ses producteurs locaux des produits plus haut de gamme que d'habitude. Résultat, un menu à rallonge avec des huîtres, des ravioles de gambas bretonnes, un foie gras, mi-cuit, biscuit, noisette, clémentine, un Saint-Pierre poché au vin jaune. En tout cas, un menu unique à 100 euros, quand même presque trois fois plus que son menu habituel. Et malgré ça, aucun problème pour remplir son restaurant.
On était déjà quasiment complet avant de communiquer vraiment sur la chose. Beaucoup de tables de 2, tables de 4, donc soit les gens viennent en amoureux, et puis tu vois, il y a des tables de 7, 8. Il y a des gens qui viennent premier service pour aller faire de la fête après, ou des gens qui arrivent un peu plus tard, comme pas mal de personnes, et on va fêter du coup le coup de minuit ensemble. On s'était d'ailleurs trompé de 5 minutes l'année dernière, donc on fera pas la même cette année, j'espère. L'année dernière, ça avait fait un petit peu la fête, on met de la musique et on s'éclate, quoi.
Bon, après, c'est pas donné, mais si c'est une fois dans l'année, bon, quand les Français sortent le 31, ils ne vont pas qu'au restaurant.
Non, certains vont au théâtre, au cinéma, au cabaret, au comedy club. J'ai même trouvé, Mathieu, des randonnées nocturnes dans la montagne le soir du 31. Des nuits dans des igloos dans les Pyrénées. À Ouessant, dans le Finistère, on boit le champagne au pied d'un phare, sans compter les vendanges de la Saint-Sylvestre dans le Gers. Bref, certains veulent la soirée inoubliable.
Bon, ben, rien à voir avec ma soirée à moi, alors, clairement.
C'est bien ce que j'ai compris, Mathieu.
Dans le Gers et de revenir.
Ouais, voilà, mais vous savez, ça pourrait être pire, Mathieu. hein. Et oui, c'est la suite de ma petite surprise de la semaine, le pire réveillon des stars de l'antenne. Aujourd'hui, c'est Vincent Moscato, le présentateur du Super Moscato Show. 15h-18h sur RMC, son pire réveillon, c'était il y a 20 ans.
J'étais avec un pote, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? J'étais à Gaillac. J'ai dit, bon, allez, on va chercher à manger, tout ça, on se fait un petit réveillon. 5-6 tranquille, et puis, bon, l'apéritif, ça commence. Et là, je te vois pas le skateboard du gamin. Skateboard, j'ai dit, putain, j'ai dit, moi, attention, les gars. Moi, skateboard, j'étais un phénomène. Donc, je te prends le skateboard, en veux-tu, en voilà, puis là, je me sens des aises. À un moment donné, par des, le verre de trop, je suis monté en l'air. Et là, clavicule pété. Hop, on appelle un toubib, on passe à sa clinique. Lui, il me file des trucs de morphine. Je sentais plus rien. Si j'aurais été sur un fauteuil roulant, je me serais levé, j'aurais marché. Et puis, comme j'étais bien, tu vois, il me bande, là, il me fout une strap lancée comme un frelon, je repars en soirée, bim, poum, plam, et là, je boite de nuit jusqu'à 6h du matin. Lendemain, fracture de la clavicule, éclatement de l'humérus. Donc, bandé pendant un mois et demi, j'ai morflé. Et ça s'est remis, je suis prêt à repartir, sans skateboard, bien sûr.
T'as pas l'air de regretter beaucoup, hein.
Visiblement.
Cette soirée, finalement.
Ça a bien marché. Alcool, antidouleur, tout ça, c'était parfait.
Sacré mélange, ouais. Alors, je le redis avec modération, l'alcool, tout ça. Non, mais on dit beaucoup ce matin, attention, on ne conduit pas quand on a bu. C'est le message pour ce soir. On fait pas de skateboard non plus.
Voilà.
Ça, c'est pour Vincent.
Il faut le spécifier.
Merci beaucoup, Bérangère Bouquillon, et bon réveillon à vous.
Merci.
Au resto ce soir?
Non.
On sera sages, nous, les matinaliers. 7h58, à la une du journal de 8h. Bah, on en parlait, tiens. 8 Français sur 10 qui ont prévu de boire. Et un quart d'entre eux vont conduire. Alors, boire ou conduire, il faut choisir, vous le savez. Il faut s'organiser, surtout. Et dans un instant, la météo, du soleil et du froid. Juste après le journal, c'est l'économie avec Manu Le Chypre. Alors, certains abonnés EDF vont payer très très cher leur soirée du réveillon. Franchement, allez au resto.
Non, mais Manu... Oui, ou alors vous cuisinez après 22h.
Mais bon, non, mais c'est fou.
Pour le réveillon, c'est pas si grave.
Non, mais c'est fou. Ce que va vous raconter Manu Le Chypre après le journal de 8h va vous faire bondir. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.